une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, on se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction, bien sûr. Nous partirons par exemple pour Haïti, l'Espagne, le Mali, l'Algérie et nous allons aussi nous intéresser au sort des interprètes afghans qui ont aidé l'armée française de 2001 à 2012. Nous verrons cela avec notre invité, le journaliste Quentin Muller. Mais pour le moment, partons pour l'Iran qui célèbre les 40 ans de sa fondation. Le président Hassan Rouhani a proclamé lundi que le complot entre guillemets américain contre la République islamique était voué à l'échec pour l'anniversaire donc de la révolution célébrée par une foule monstre dans le centre de Téhéran. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Falaise.
L'immense place Azadi se vide après cet anniversaire de la révolution iranienne. Farzin semble galvanisé par les discours et slogans qui ont résonné toute la matinée.
Aujourd'hui, je suis venu manifester pour dire à M. Trump que le peuple iranien est uni et engagé pour la révolution. C'est pour donner un coup de poing au visage de M. Trump, pour qu'il ne croie pas que le peuple iranien renoncera à ses engagements et n'abandonnera pas son guide suprême.
Ces jours-ci à Téhéran, on croise aussi des Iraniens indifférents aux slogans officiels de la République islamique. Certains s'inquiètent surtout de la situation économique, comme ce trentenaire qui rêve d'une nouvelle vie à l'étranger.
Je voudrais émigrer au Canada parce que la situation financière en Iran, étape par étape, sera mauvaise qu'avant. Et je crois pas que je pourrais, par exemple, acheter une maison, acheter un appartement ou améliorer ma situation financière dans l'avenir.
Selon le Fonds monétaire international, l'Iran est entré en récession en 2018 dans la foulée du rétablissement des sanctions américaines.
Et nous repartirons pour l'Iran tout à l'heure. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur le site de la radio, www.rfi.fr, et bien sûr sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Quentin Muller.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes journaliste et vous venez d'écrire avec Brice Andlauer Tarjeman, enquête sur une trahison française, un livre publié chez Bayard. Qui sont ces Tarjeman ?
Ces Tarjeman sont des jeunes Afghans qui se sont engagés auprès des troupes françaises de 2001 à 2014 pour aider en fait la coalition internationale et donc l'OTAN et donc les troupes françaises à démocratiser le pays et à le libérer en fait des insurgés talibans et d'Al-Qaïda.
Donc en gros de 2001 à 2012 à peu près ?
Jusqu'à 2014 puisqu'il y a une mission qui s'appelle la mission Epidote qui était chargée en fait de continuer de former l'armée nationale afghane et la police, donc ça s'est étendu jusqu'à 2014.
Alors il faut rappeler Quentin qu'il s'agissait pour les Occidentaux de entre guillemets de lutter contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. D'abord oui, Américains, ensuite une coalition regroupée au sein de l'ISAF.
Le contexte c'est que à l'époque, donc il y a eu les attentats du 11 septembre. Ben Laden, enfin Al-Qaïda, très vite revendiqué l'attentat. Il se trouve que les Ben Laden et ses généraux étaient en Afghanistan à ce moment-là, et les Américains ont demandé au régime taliban, qui avait pris presque l'entière partie du pays, de livrer en fait les généraux d'Al-Qaïda et Ben Laden, de les livrer aux Américains et à la justice internationale. Sauf que les talibans ont refusé, et donc il y a eu cette intervention massive de une cinquantaine de pays au sein de l'OTAN en fait qui ont envahi l'Afghanistan et qui ont repris Kaboul en quelques jours très rapidement et qui ont déployé une force de frappe extraordinaire et un contingent militaire immense au fur et à mesure du conflit.
Alors Quentin, ce livre, cette enquête sur cet Tarjeman avec ce sous-titre « Enquête sur une trahison française », livre d'ailleurs publié chez Bayard, c'est un très beau livre dans la fabrication avec une belle photo en couverture. Cette enquête, c'est l'histoire d'une lâcheté, d'une indifférence, du cynisme d'une partie des autorités françaises et de l'administration française.
Oui, il y a toujours eu, depuis le début de l'affaire, depuis le début de retrait en 2012, un mépris pour ces hommes, et pour leurs femmes et leurs enfants d'ailleurs, qui ont servi le drapeau tricolore, qui se sont engagés, qu'ils eût été cuisiniers, physionomistes, magasiniers, traducteurs, ils se sont engagés pour la France. Ils ont aidé les troupes françaises quand elles ont débarqué dès 2001 dans ce pays qui était méconnu en France. La France n'a jamais eu aucun relais en fait en Afghanistan. C'était pas une ancienne colonie, donc elle n'avait pas d'attache de repères.
C'est ce que précise François Sureau qui signe une longue et belle préface de votre livre.
Oui, François Sureau rappelle à juste titre que ces Français, quand ils sont arrivés en Afghanistan, quel rapport ils avaient avec l'Afghanistan, quel lien ils avaient avec l'Afghanistan. Ce lien-là, ces seuls liens, c'était à travers leur Targeman. C'était à travers le cuisinier avec qui il pouvait échanger sur l'Afghanistan et ce qu'était ce pays. Parce que c'est un pays qui est très difficile à comprendre, qui est très loin de la France, avec des codes très complexes, avec des codes sociaux, culturels, qui sont très compliqués à comprendre. Donc, en étant tout le temps dans des bases fortifiées, en ne pouvant très peu sortir et d'être en relation du coup avec la population, et en étant toujours très loin de ces rivaux, les insurgés talibans qui tiraient depuis leur montagne, mais on voyait rarement en fait un visage d'ennemi. Et la seule porte d'entrée pour comprendre ce pays, c'était leur Targeman.
Alors, pour bien comprendre, Quentin Muller, la nature du problème, c'est que ces interprètes, ou une grande partie d'entre eux, ont pris des risques énormes. Vous le racontez très bien dans le livre, d'ailleurs, on citera un extrait si on a le temps tout à l'heure. Et ils comptaient revenir avec les forces françaises en France pour être à l'abri d'éventuellement de représailles.
Alors, est-ce qu'ils comptaient tous partir en France une fois qu'ils s'engageaient pour l'armée française? Non. Parce qu'au départ, beaucoup se sont engagés en croyant, en fait, au bienfait de l'intervention française et de l'OTAN. Ils comptaient vivre en fait dans un pays démocratique, libre, et ils pensaient que l'OTAN allait libérer le pays de l'obscurantisme. Et l'OTAN a échoué, mais ça c'était pas une défaite que ces jeunes Afghans prévoyaient. Eux prévoyaient qu'un jour l'Afghanistan devienne un pays où ils feraient bon vivre.
C'est ça, dans un premier temps, ils voulaient rester dans leur pays libéré.
Exactement, exactement. Mais au fur et à mesure que le conflit s'est enlisé, eux se sont rendus compte que ce pays ne serait pas en paix, en tout cas pas tout de suite, et peut-être pas sur leur vie. Donc certains ont commencé à émettre un souhait, effectivement, à partir d'un certain moment, de rentrer avec les troupes françaises, parce qu'ils se sont rendus compte que les troupes françaises n'allaient pas rester très longtemps, et que leur vie serait mise en danger par leur lien avec les forces étrangères qui deviennent petit à petit des forces d'occupation. Et en tout cas, c'est ce que les populations locales considèrent, une grande partie de la population locale considère au fur et à mesure que le conflit s'enlise.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de Targeman? Parce que vous parlez du personnel, mais il n'y a pas que les interprètes, il y a d'autres types de catégories.
C'est pour ça, je ne veux pas faire le tri, je ne veux pas différencier un physionomiste, un cuisinier, un personnel de ménage avec un interprète. Je ne veux pas dire qu'un interprète mérite plus qu'un cuisinier. Je ne veux pas faire cette différence-là. Pour moi, ils sont tous des Targeman.
C'est un terme générique. Finalement.
C'est un terme générique qu'on a voulu adapter parce qu'on ne voulait pas faire de discrimination. Finalement, quand un jeune Afghan, mettez-vous à la place d'un jeune Afghan, et il décide de s'engager pour les forces françaises, alors quel que soit son travail, il quitte son domicile, sa vallée, son village, et pendant 2 ans, par exemple, il travaille pour les forces françaises. Il rentre dans son village, il a assez d'argent parce qu'ils étaient correctement payés par rapport au salaire qu'on propose en Afghanistan.
Entre 600 et 1000 euros par mois.
Oui, entre 800 et 1000 euros. Ouais. Donc il rentre dans son village. Et il a assez d'argent pour se marier, pour s'acheter une voiture. Pour un jeune de son âge, c'est très rare en Afghanistan. Et donc forcément, le village se pose des questions. Forcément, les voisins, la famille lointaine se dit, mais même s'il n'y a pas, ces gens n'ont pas déclaré avoir travaillé pour les forces françaises, on se dit, ce jeune-là s'est absenté 2 ans, il revient avec de l'argent, forcément qu'il s'est engagé avec les forces étrangères et qu'il a collaboré avec les forces étrangères. Donc qu'il eût été cuisinier ou interprète, finalement ça ne change pas grand-chose. Il y a toujours ce doute, il y a toujours ce risque qu'un jour on découvre son passé, son passif, son CV.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnel qu'il représente?
Alors la France en a engagé 800 à peu près, de 2001 à 2014. Le ministère de la Défense n'a pas de chiffres très précis. Alors c'est un peu...
Ce qui en dit long déjà.
Ce qui en dit long, oui.
7 jours dans le monde.
Alors avant de repartir en Afghanistan, Quentin Muller, prenons la direction de Haïti. Cette semaine, en effet, des affrontements violents ont éclaté à Port-au-Prince entre la police et les protestataires qui contestent le pouvoir en place. Les manifestants demandent la démission du président Jovenel Moïse. L'opposition a lancé des protestations le 7 février, date du deuxième anniversaire du début du mandat du président. La publication d'un rapport de la Cour des comptes fin janvier a alimenté la colère des Haïtiens. Le président, une quinzaine d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires y sont épinglés dans plusieurs soupçons d'affaires de détournement d'aide au développement à Port-au-Prince au début de la semaine. Amélie Baron.
Au cœur de l'ère métropolitaine, les centaines de manifestants venus de Cité Soleil n'ont caché ni leur colère ni leur envie de tout détruire. Les visages majoritairement masqués, ces jeunes se déclarent à bout, comme en témoigne l'un d'eux qui a voulu qu'on l'appelle Pierre Lay.
Nous étions posés.
On est resté calme, mais Jovenel Moïse nous a abandonnés avec notre faim, et quand on a faim, ils savent ce qu'on peut faire. On n'a qu'à tout casser, mais on ne veut pas ça, on veut du travail. Sans ça, on va tout raser dans le pays, parce qu'on n'en peut plus de souffrir, on a trop faim.
À grand renfort de lacrymogènes et de tirs en l'air, la foule s'est dispersée en commettant quelques petits pillages. Joël a perdu tout son stock de boissons gazeuses, mais il n'en veut à personne d'autre qu'au président.
C'est pas faute, yo. Parce que yo nan gang.
Ça n'est pas leur faute. Ils ont faim. Ce qu'ils ont pris, ils l'ont bu ou vont le vendre et avoir de quoi soulager un peu leur famille. Je n'ai rien contre eux. C'est parce qu'on n'a pas de bons dirigeants. Si tout le monde avait du travail, ça n'arriverait pas. C'est à cause de ce président de mascarade qui fait que toutes ces dérives se produisent en Haïti.
Qualifié de menteur et de corrompu dans les rues du pays depuis déjà 5 jours, le président reste terré dans son mutisme, ce qui ne fait qu'amplifier la colère populaire.
Et Jovenel Moïse est sorti jeudi soir de son silence, après une semaine de manifestations violentes, donc pour réclamer sa démission. « Je ne laisserai pas le pays aux mains de gangs armés, de trafiquants de drogue », a-t-il dit dans une allocution télévisée. Direction l'Afghanistan maintenant, Quentin Muller, avec la visite surprise du chef du Pentagone, responsable de la défense des États-Unis à Kaboul, d'où Sonia Ghezali nous a appelé.
Au programme du jour, pour Patrick Shanahan, rencontre avec le président afghan Ashraf Ghani ainsi que le général Scott Miller, commandant en chef des 14 000 soldats américains postés en Afghanistan et chef des forces étrangères déployées sous la bannière de l'OTAN. Cette visite intervient dans un contexte de tractations intenses entre les États-Unis et les talibans en vue de parvenir à un processus de paix. Si des discussions ont eu lieu en tête-à-tête entre l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan et les représentants des talibans, notamment au Qatar, le gouvernement afghan a jusque-là été exclu de ces rencontres. Les talibans refusent de discuter avec ceux qu'ils considèrent comme étant un gouvernement illégitime à la botte des Américains. Il est important que le gouvernement afghan soit impliqué dans des discussions qui concernent l'Afghanistan, a déclaré le chef du Pentagone aux journalistes qui voyageaient avec lui. Les Afghans doivent décider de leur avenir, a-t-il insisté. Des déclarations censées rassurer les autorités afghanes de plus en plus isolées dans les discussions sur la paix. Il y a 5 jours, à Moscou, les talibans ont rencontré des membres de l'opposition au gouvernement. Celui-ci n'était pas convié. Ashraf Ghani a appelé aujourd'hui à une jirga de la paix, une assemblée traditionnelle, pour discuter des négociations de paix et de l'avenir du pays en cas de résolution du conflit.
Nous sommes toujours en compagnie de Quentin Muller pour son livre écrit avec Brice Sandlauer, une enquête sur les Tarjemans, ce personnel afghan abandonné en quelque sorte, je vais peut-être un peu vite, mais en tout cas, il y a un peu de ça, par les Français. Enquête sur une trahison française, c'est le sous-titre de votre livre publié chez Bayard. Que pensez-vous de cette visite surprise du chef du Pentagone cette semaine à Kaboul?
Je pense que cette visite montre qu'en ce moment, c'est en train de bouger pour, en tout cas, la présence américaine en Afghanistan. Il y a des pourparlers, il y a des négociations, il y a des discussions entre les Américains et le gouvernement afghan, il y a des discussions entre les Américains et les talibans, et quelque chose va se passer, et l'issue sera, je pense, forcément malheureuse pour les Tarjemans. Aujourd'hui, je suis ému parce que je reçois beaucoup, de plus en plus de messages des Tarjemans que je connais qui sont encore en Afghanistan, et eux me pressent, me disent que ça sera bientôt leur tour, parce que les talibans, quand ils vont revenir sur la scène politique, ils vont petit à petit exécuter tous ceux qui auront et qui ont collaboré avec les forces étrangères.
D'ailleurs, qui gagne du terrain.
Mais là, c'est plus un territoire géographique, mais qui gagne du terrain surtout politique. Donc, on est sur une urgence de rapatrier ces gens-là qui seront les cibles. On a cité dans le livre un passage d'un porte-parole des talibans qui, quand on des journalistes américains leur ont posé la question, quand ils leur ont posé la question de savoir si les interprètes afghans, les tarjeman en général, étaient des cibles, les talibans ont répondu que c'était des gens qui devaient mourir. Ouais. Donc si jamais un jour les talibans reprennent enfin en tout cas arrivent sur la scène politique en Afghanistan et reprennent l'Afghanistan, ces gens-là seront les premiers à être exécutés.
L'un d'entre eux dit dans votre livre, Quentin Muller, je le cite, « Une nuit, on rentre de force dans une maison où on savait qu'un taliban se cachait. On s'arrête devant sa femme et ses enfants. Je traduis tout, il voit mon visage. Pendant qu'il a les menottes au poing, il me hurle qu'il se souviendra de moi et que dès qu'il le pourra, il me tuera. Les militaires ont vu tout ça. Oui. » C'est un des tarjeman.
C'est un passage qui me donne des frissons.
Abdul Razik.
Parce que déjà, il y a eu une faute dans cet épisode-là. On n'aurait jamais dû laisser ce tarjeman
en contact avec les...
Non, il ouais. peut être en contact, mais on lui met des lunettes, on lui met une écharpe, on lui met du coton dans la bouche pour masquer sa voix et on le cache surtout. Et jamais un tarjeman n'aurait dû être en contact comme ça avec un taliban direct. Un visage, bien évidemment, on s'en rappelle. Et ces talibans vouent une haine féroce vis-à-vis de ces Afghans qui ont, entre guillemets, trahi le pays.
Alors il faut que je cite un extrait de la préface, la belle préface de François Sureau, je le cite. Toutes les unités de l'armée française sont passées dans ces vallées afghanes, hein, légionnaires, marsouins, tirailleurs, chasseurs alpins, aviateurs et marins, comme dans la Noria de Verdun, en moins grave bien sûr, sauf pour ceux qui n'en sont pas revenus et pour leurs proches. À chacun son interprète. Le nôtre était un homme d'une cinquantaine d'années, avec un visage fin et triste, à la barbe noire, attentif, toujours bien vêtu, quelles que fussent les circonstances. Il avait été élève du lycée français avant d'occuper un emploi de fonctionnaire. Il s'appelait Waïd. J'ai près de moi, en écrivant, une photo où nous sommes ensemble. Et puis nous sommes rentrés, sauf eux. Ce qu'ils avaient espéré en s'engageant à nos côtés n'a pas eu lieu. Leur pays ne s'est pas redressé. Ils sombrent peu à peu par pans dans une anarchie tempérée par la corruption et l'ordre insupportable de l'intégrisme, dans la violence et le désespoir. Tout le monde s'en fout à présent. Nul ne sait plus si nos raisons d'aller là-bas étaient les bonnes. Et nous les a-t-on vraiment données? C'est vrai? Pourquoi?
Bien sûr que tout ça est vrai. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a dépassé, je pense, beaucoup de militaires, beaucoup de hauts généraux, beaucoup de décisionnaires à Paris. C'est une guerre, on s'est engagé parce qu'il fallait certainement le faire et être aux côtés de nos alliés américains à l'époque. Mais c'est une guerre qui a duré tellement longtemps. C'est un conflit qui s'est tellement enlisé et au fil des années, qu'est-ce que la France en retire de cette guerre?
Et il faut rappeler que le contingent français est allé jusqu'à 4000 hommes, hein, c'est ça, en Afghanistan?
Oui, exactement, à son apogée, oui.
Avec ensuite un retour. Et il y a eu deux vagues de rapatriement, expliquez-vous dans le livre, de ces tarjeman, en 2012 et 2015, c'est ça?
2012 et 2015, oui. Alors, il y en a eu une troisième en 2018. Alors, 2012, c'est une initiative qui a été prise à l'époque par un haut fonctionnaire de l'ambassade française et un haut général. Ils se sont dit en 2012, quand le retrait était acté, qu'il fallait peut-être faire quand même quelque chose pour ces tarjeman quand même. Oui, le mot est juste. Donc eux deux avaient l'espoir, donc ce sont pas des très hauts décisionnaires, hein. Eux deux ont eu cette idée, ils avaient l'espoir d'en rapatrier à peu près 400. Et leur famille, donc qui est un chiffre beaucoup plus élevé que ce qui a été prévu après. Mais malheureusement, le ministère de l'Intérieur de Manuel Valls à l'époque a fixé très vite un quota pendant les réunions interministérielles, et ce quota était de 35 sur 800. Ouais. Il a été doublé à l'époque par Bernard Bajolet, qui était un proche du président, mais c'est pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est passé de 35 à 73, qui est toujours un chiffre ridicule.
Une semaine d'actualité.
Avant de reparler des tarjeman, Quentin Muller, direction l'Espagne maintenant. Le procès hors norme de 12 dirigeants indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017 s'est ouvert mardi à Madrid, alors que la question catalane, on le sait, enflamme toujours autant les esprits en Espagne. Margot Turgi.
Trois mois d'audience retransmise à la télévision et suivie par 600 journalistes. Entre le gouvernement de Madrid et les indépendantistes de Barcelone, c'est donc une bataille judiciaire et médiatique qui commence. Dans le box des accusés, 12 figures de l'indépendantisme catalan, dont l'ancien vice-président Oriol Junqueras et l'ancienne dirigeante du Parlement régional Carme Forcadell. Ils sont accusés de désobéissance, rébellion et sédition. 9 d'entre eux sont en détention provisoire depuis un an. Un nom majeur figure au tableau des absents, Carles Puigdemont, ancien président de la Catalogne et organisateur du référendum de 2017, qui vit aujourd'hui en exil en Belgique. Quant à celui qui dirigeait l'Espagne au moment du référendum, le conservateur Mariano Rajoy, il est sur la liste des centaines de témoins appelés à la barre. Ce procès va tourner autour d'une question, le référendum de 2017 a-t-il été violent ? L'interrogation est centrale car si les juges estiment qu'il y a effectivement eu un soulèvement violent, les accusations de rébellion seront fondées. Depuis la consultation, les indépendantistes soutiennent que les seuls à avoir fait preuve de violence, ce sont les policiers, envoyés à Madrid pour empêcher le référendum. Les accusés risquent de 7 à 25 ans de prison.
Je vous rappelle également que les députés espagnols ont rejeté mercredi le premier budget du chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 8 mois seulement, ce qui a contraint ce dernier à convoquer des élections anticipées le 28 avril prochain. Partons maintenant au Venezuela. Quentin Muller, où une partie de la population attend toujours l'aide humanitaire promise par les États alentours et les États-Unis aussi. Une partie de la population donc cherche toujours aussi à quitter le pays. Écoutez par exemple ce reportage signé Benjamin Delisle avec une famille qui veut s'exiler au Pérou.
Comme tous les jours, à côté du pont Simón Bolívar, une longue file d'attente se forme. Avant de pouvoir passer en Colombie, José Ángel et María doivent faire tamponner leur passeport. Après un an de préparation, quelques heures d'attente en plus ne les dérangent pas. Ils quittent une partie de leur famille dans le centre du pays pour des raisons tristement simples.
Si on ne mange pas et qu'on ne se soigne pas, comment est-ce qu'on vit ? Ici, il n'y a ni nourriture ni médicaments, donc c'est vite vu.
L'arrivée de Juan Guaido, l'espoir d'un changement, la transition politique, ils y ont cru. Mais brièvement, explique José Ángel.
Ça ne suffit pas à changer nos plans. Cela fait, je ne sais pas, 3 ans qu'on nous dit presque chaque jour « ça va s'arranger », mais ça ne s'arrange pas. Il n'y a plus d'espoir. On nous dit que le gouvernement va partir demain, puis après-demain, puis dans un mois. Tous les Vénézuéliens font en sorte qu'ils partent. Que faire de plus ? Il ne part pas.
Et ce n'est pas l'aide humanitaire bloquée de l'autre côté du pont qui va les convaincre de rester, explique Maria.
On doit continuer à immigrer si on veut survivre. J'ai mes 2 enfants avec moi, ils ont 4 et 5 ans. Et ce qui m'importe le plus, c'est leur alimentation, parce qu'ils sont en pleine croissance.
Il faut donc partir, subir un long voyage, 6 à 7 jours, pour gagner Lima au Pérou, à pied ou en bus, selon les opportunités. Partir pour mieux revenir, espère José Ángel.
On changera d'opinion quand le gouvernement s'en ira. Là, tous les Vénézuéliens rentreront.
Derrière eux, la file d'attente n'en finit pas. Plus d'un millier de Vénézuéliens qui refusent, comme eux, de subir la crise.
Reprenons maintenant la route de l'Iran en nous rapprochant donc de l'Afghanistan. Et Quentin Muller, 27 membres des gardiens de la Révolution ont en effet été tués mercredi dans un attentat suicide contre leur bus qui les ramenait d'une mission de patrouille à la frontière. Retrouvons notre envoyé spécial Nicolas Falaise.
Selon les gardiens de la Révolution, une voiture bourrée d'explosifs s'est approchée d'un bus qui transportait une unité des forces terrestres. Le kamikaze a alors actionné sa bombe. L'attentat meurtrier s'est produit dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, près des frontières pakistanaises et afghanes, une région où vivent de nombreux musulmans sunnites alors que la grande majorité de la population iranienne est chiite. Selon l'agence de presse iranienne Fars, l'attentat a été revendiqué par un groupe djihadiste, Jaish el-Adl. Ce dernier avait déjà revendiqué l'attentat qui a coûté la vie à un gardien de la Révolution au début du mois. Dans les provinces du sud-est de l'Iran, les forces armées sont fréquemment visées par des groupes séparatistes ou islamistes radicaux. En septembre dernier, 24 personnes ont été tuées dans la région du Khuzestan quand des hommes armés ont ouvert le feu sur un défilé militaire. L'attentat avait alors été revendiqué par le groupe État islamique et par un groupe séparatiste issu de la minorité arabe d'Iran. La République islamique accuse régulièrement des pays étrangers comme l'Arabie saoudite de soutenir ces organisations.
Et effectivement, le président iranien Hassan Rouhani a promis jeudi de se venger du groupe mercenaire, entre guillemets, et accusait cette fois Israël et les États-Unis de soutenir le terrorisme. Suite d'une semaine d'actualité, nous continuons à parler des targets Tangeman, cette enquête sur une trahison française, publiée chez Bayard et écrite par Brice Andlauer et Quentin Muller. Quentin Muller qui est notre invité. Il nous faut, à ce niveau de l'émission, Quentin, rendre hommage à une Française, une avocate française qui s'appelle Caroline de Croix.
Oui, oui, il faut absolument lui rendre hommage. Et d'ailleurs, elle m'a demandé d'arrêter de le faire, mais je continue.
On va le faire quand même.
Je continuerai à le faire. Oui, alors Caroline de Croix, qui c'est ? Ouais, c'est une jeune mère de 3 enfants qui n'a jamais eu aucun lien avec l'Afghanistan ni avec ses hommes. Elle est tombée tout bêtement en fait sur un article en 2015 où elle a été choquée par la situation de ces hommes qui manifestaient devant l'ambassade française à Kaboul. Et en tombant sur cette affaire, elle a eu une révélation juridique. Elle s'est dit « je vais monter quelque chose pour les défendre et je vais forcer l'État à honorer son devoir moral ».
Alors, elle s'est tellement investie qu'elle a quitté son métier d'avocate et qu'elle a créé une association dédiée à cette action.
Elle a créé une association dédiée à la protection de ces hommes. Elle a effectivement quitté son job d'avocat en droit des étrangers. Elle voulait surtout se consacrer pour les Tarjuman. Donc, elle est devenue juriste aujourd'hui. Et donc, ça lui permet de, quand elle rentre chez elle, de pouvoir continuer à travailler pour les Tarjuman tous les jours, en fait. C'est un travail acharné, c'est un travail courageux. C'est un travail où on reçoit beaucoup de coups. Quand on est Caroline de Croix, elle a reçu beaucoup de coups, beaucoup. Elle a écouté aussi, elle a entendu beaucoup de mots durs vis-à-vis des Tarjuman, mais elle a toujours cru en son combat. C'est une femme de conviction, c'est une femme de devoir moral et elle honore vraiment la France. Et je suis fier d'être français quand je côtoie une femme d'un humanisme aussi élevé.
Quentin Muller, on est moins fier d'être français quand on voit à quel point l'administration française peut enterrer ou être indifférente à des situations pourtant humainement difficiles.
Oui, alors malheureusement c'est le cas de nos politiciens et de la haute administration, des hauts fonctionnaires qui sont toujours plus déconnectés du réel.
Alors certains ont essayé, oui, d'autres, certains. La plupart ont été indifférents, même cyniques.
La plupart ont méprisé ce dossier, n'en ont pas voulu, ont traîné les pieds.
Considérant que c'était un dossier secondaire ?
Considérant que c'était un dossier qui avait été déjà réglé, qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait encore en rapatrier, puisque les meilleurs avaient été choisis, entre en gros guillemets, et que ceux qui étaient...
Donc lors des vagues de rapatriement de 2012 et 2015...
De 2012, à l'époque, quand on est en 2015, déjà, on considérait qu'on avait rapatrié les meilleurs en 2012 et qu'aucun d'eux, en plus, ne devait être rapatrié, mais comme il y a eu la pression de cette association et que le gouvernement Hollande et François Hollande étaient en hausse dans les sondages, il fallait pas casser cette dynamique, il fallait pas que l'association crée un barouf médiatique, donc il fallait surtout régler cette affaire-là, mais bon, on l'a fait de manière très nonchalante, on a toujours considéré ces gens comme des migrants en puissance, donc c'était rajouter encore des chiffres à d'autres chiffres, mais en prenant surtout les Tarjuman comme des migrants, alors que ce ne sont pas des migrants.
On peut même parler de paranoïa, parce que certains considéraient que ces Tarjuman étaient une menace, constituaient une menace pour la sécurité de la France.
Alors ça, c'est un argument un peu triste, déjà, et puis assez fourre-tout, c'est-à-dire c'est l'intérieur plutôt, souvent l'intérieur qui a motivé ça, en disant attention, ces Afghans-là, on les connaît pas. Attention, ils sont peut-être radicalisés. Attention, ce sont peut-être des musulmans intégristes. Mais il faut savoir que ces Tarjuman et tous ces fonctionnaires, ces auxiliaires, quand ils ont travaillé pour la France, tous les 6 mois, leur contrat était renouvelé, et tous les 6 mois, il y avait une enquête de la DPSD, l'ancien renseignement militaire, qui checkait en fait l'honnêteté de ces gens-là et pour juste voir s'ils n'avaient pas de lien avec l'insurrection.
Donc, menace précise.
Donc ces gens-là ont été tous les 6 mois. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites tous les 6 mois sur eux. Donc, s'ils étaient, si on avait un doute sur eux, pourquoi on les embauchait à cette époque-là ? Pourquoi ? Donc, pourquoi les remettre en question aujourd'hui ? Je ne comprends pas. Alors qu'on leur a fait confiance sur place et on leur a pas fait confiance. On a enquêté sur eux au fur et à mesure de leur travail pour l'armée française. Donc, aujourd'hui, pourquoi remettre en question leur parole ?
Semaine d'actualité.
Et Quentin, arrêtons-nous en France, justement, un instant, avec d'abord l'augmentation des actes antisémites, comme d'ailleurs en Allemagne, on l'a aussi appris cette semaine. 541 faits antisémites en France ont été enregistrés l'année dernière par la police, donc 81 actions violentes à l'Assemblée nationale, Julien Chavannes.
Les 8 présidents des groupes parlementaires sont arrivés ensemble dans l'hémicycle, aux côtés de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale.
Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie que nous ne tolérerons jamais.
Un hémicycle debout, uni contre l'antisémitisme. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'engage à renforcer les sanctions.
Il faut faire en sorte qu'aucun acte ne soit impuni et pour cela que tous les actes subis fassent l'objet d'une plainte que nous instruirons avec la plus grande sévérité.
Mais l'unité est toujours de courte durée à l'Assemblée. Alexis Corbière de la France Insoumise accuse Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, d'instrumentaliser les Gilets jaunes.
On doit tous dire que ces actes antisémites sont odieux, mais à ma connaissance, il n'est pas établi que ça ait un lien avec les protestations actuelles qui portent sur d'autres sujets. Et j'en ai assez que, notamment lui, il est toujours là avec son style si grossier, si arrogant, pour essayer de profiter, pour faire de la petite politique politicienne. Quel minable.
Pour Sébastien Chenu du Rassemblement National, le gouvernement ne fait pas assez pour défendre les Juifs en France.
On sait que l'islam radical dans les banlieues pousse un certain nombre de nos compatriotes de confession juive à déménager. Ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont des mesures pour lutter contre le communautarisme dans notre pays.
De leur côté, les députés Les Républicains veulent élargir le champ des poursuites pour appel à la haine, notamment sur les réseaux sociaux. Quant à La République En Marche, elle souhaite améliorer la prévention dans les écoles.
Suite à une semaine d'actualité en France, il fait figure désormais de sage de la politique française. C'est sans doute pour cela que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a été nommé au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, justement, Richard Ferrand. Jeudi, en démissionnant, il a avoué à Bordeaux qu'il n'avait plus envie de politique. Cela en dit long d'ailleurs sur l'air du temps en France aujourd'hui. Écoutons-le.
La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat. Et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte, tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites, dont tout pays a pourtant besoin. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Je souhaite continuer à servir notre pays et notre République dans un environnement de travail plus serein. Le Conseil constitutionnel m'en donne la chance.
Suite à une semaine d'actualité, les propos sont très clairs. Quentin Muller, on va revenir à ces Targeman. Est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron a changé quelque peu les choses pour eux?
Alors, Emmanuel Macron a eu le mérite quand même dans sa campagne présidentielle d'évoquer le cas des Targeman. Lors d'un clip de campagne, il fait le lien avec les Harkis et il parle de haute trahison vis-à-vis des Targeman. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a été élu, très vite, il a rassemblé des d'anciens hauts généraux et donc des conseillers militaires et il leur a dit « je tiens à ce que promesse électorale se fasse ». Donc, mettez en place un système pour faire ce qui doit être fait. Donc, c'est-à-dire, Macron considérait qu'il fallait réétudier les cas qui avaient été refusés en 2015. Lors du second processus de rapatriement, ouais. Il y avait eu 252 demandes. Il y avait eu 101 demandes acceptées, donc 151 refusées. Donc, Macron voulait revenir, en fait, sur ces demandes qui étaient refusées. Et il voulait réétudier à titre humanitaire ces demandes qui avaient été refusées à l'époque. Donc se mettre en place petit à petit, de manière très lente, début 2018, des réunions interministérielles où le cabinet des affaires étrangères, le cabinet de l'intérieur et de la défense se réunissent pour discuter de comment va se passer ce troisième processus de rapatriement. À ce moment-là, on a eu, nous, les conclusions de ces réunions interministérielles et on se rend compte que le ministère de la Défense n'a pas les dossiers de tous les interprètes. Il ne sait même pas combien Finalement, il en reste. Bon, c'est très compliqué pour eux de les retrouver, apparemment. Donc
et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à croire, que le ministère de la Défense, ouais, qui a donc embauché, en quelque sorte, Tarjeman, doit avoir quelque part une liste dans ses archives.
On voit bien à travers ça que c'est un dossier qui avait été mis de côté et plus personne ne s'en préoccupait. Donc finalement, ils ont, à l'issue de plusieurs réunions, ils se sont dit, bon, on va quand même contacter l'association, puisque l'association est en contact avec ces gens-là, donc elle va nous aider. Donc, on est un peu surpris quand on lit ça. Et au final...
En général, ce sont les associations qui se tournent vers l'État pour essayer de résoudre leurs problèmes.
Oui, c'est pas l'inverse. Et donc, au bout de à peu près 10 mois, enfin, se met en place un petit contingent de fonctionnaires qui travaillent au Quai d'Orsay. Et plusieurs fonctionnaires sont envoyés à l'ambassade française à Islamabad, mais pas à Kaboul, parce que Kaboul refuse d'accueillir ces Tarjeman, et se mettent en place des interviews. On crée une boîte mail pour que les Tarjeman qui ont été, seulement les Tarjeman qui ont été refusés en 2015, pas ceux qui ont appris qu'il y avait un processus de rapatriement entre-temps, ou alors pas ceux qui ont fui, qui n'ont pas attendu 3 ans après, presque 4 ans après, qu'on leur donne l'opportunité encore une seconde fois de candidater. Donc beaucoup sont partis en Turquie, enfin sur le chemin des migrants, et ils ont été soit arrêtés et mis dans des camps de réfugiés, soit sont dans des procédures judiciaires et migratoires avec des pays européens qui sont très complexes et qui ne comprennent souvent pas. Donc ces gens-là, on les exclut. Ceux qui ne savaient pas en fait qu'il y avait un processus de rapatriement et qui arrivent et qui n'avaient pas demandé en 2015, on les exclut également. Donc seulement ceux qui ont été refusés en 2015 peuvent candidater. Et à ce moment-là, il y a un mail qui se crée, donc on leur fait remplir un formulaire et on leur demande d'enjoindre des contrats de travail avec l'armée française, des preuves de menace également, ce qui est toujours très compliqué à collecter. Et commencent les convocations. Là, moi, personnellement, je me suis investi avec certains que je connaissais, que j'avais rencontrés à Kaboul, qui me demandaient de l'aide, des conseils de comment remplir leur formulaire en français, parce que beaucoup parlaient aussi anglais. Les convocations commencent, il y a une tension, il y a une peur. Moi, j'ai été convoqué, et toi, t'en es où ? Ah non, moi, j'ai toujours pas eu de convocation. Les semaines avancent, et on avait promis que ça durerait... Enfin, le ministère des Affaires étrangères avait dit que ça durerait 3 semaines. Les convocations arrivent, d'autres n'en ont pas, et seulement, en fait, 51 ont... Enfin, une soixantaine ont reçu une convocation, et seulement 51 ont été rapatriés sur 180 demandes.
Oui, donc c'est toujours au compte-gouttes, c'est le moins que...
Et c'est toujours très faible.
Et il faut quand même reconnaître, pour être totalement objectif, Quentin Muller, et c'est ce qui est souligné par Caroline Decroix, que ceux qui ont été accueillis en France, en bonne et due forme, ont été bien accueillis apparemment.
Oui, alors ceux qui ont été accueillis en France et qui ont réussi à obtenir ce visa, ils ont très bien été accueillis. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, et je voudrais citer ici un préfet qui était à l'époque en charge de l'accueil des réfugiés irakiens et syriens, qui a été mandaté sur l'affaire des Tarjeman, qui s'est battu bec et ongles en 2015 et 2016 pour trouver des logements à ces Tarjeman, et qui s'appelle Jean-Jacques Brault, qui est aujourd'hui préfet des Yvelines, et il a travaillé vraiment dur pour offrir un logement et plein de papiers à ces gens-là, donc des cartes de séjour de 10 ans.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Issa Barry qui nous écoute à Conakry en Guinée. La guerre a un prix, une pensée à tous les pays qui sont en guerre. Afghanistan, Burundi, Somalie, Irak, écrit-il. On ne peut pas vivre sans la paix. Bonjour à Elvisius à Douala, à Issouf, à Boromo, au Burkina Faso. Bonjour à Kamao, à Koumazi en Côte d'Ivoire et à Mourari à Niamey.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, Quentin Muller, et commençons en Algérie avant l'élection présidentielle du 18 avril prochain. À 81 ans, le président Abdelaziz Bouteflika briguera donc un cinquième mandat. Il est considéré comme l'artisan de la paix après une décennie de guerre civile particulièrement sanglante, mais il est aussi accusé de vouloir s'accrocher au pouvoir malgré une santé pour le moins défaillante. À Alger dimanche, Leïla Berato.
Après plusieurs semaines de doutes, l'annonce est désormais officielle. Abdelaziz Bouteflika se présente pour un cinquième mandat. Dans son message à la nation, le président, âgé de 81 ans, explique que par sa candidature, il répond aux appels des partis politiques et de la société civile. Il reconnaît être affaibli physiquement, mais souligne sa volonté de servir la patrie. Il dresse un bilan positif de ses quatre mandats, évoquant la réconciliation nationale et l'amélioration des conditions de vie depuis 1999. Il propose deux axes majeurs de travail, consolider l'économie et donner plus de place aux jeunes. S'il est élu, le président promet aussi une conférence nationale inclusive pour discuter d'une plateforme économique, politique et sociale, comprendre que c'est après son élection que pourrait débuter une transition. Dans son message, il évoque aussi une modification de la Constitution après de larges consultations, comme il l'avait fait en 2016. Enfin, cet après-midi, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été officiellement désigné directeur de la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika. C'est lui qui avait eu ce rôle en 2004, en 2009 et en 2014.
Parlons maintenant de la situation politique et sécuritaire au Mali. Elle s'aggrave selon les Nations Unies. Mali, où la force Barkhane a mené une opération aérienne vers Dialoubé, un village au nord de Mopti, en dehors donc de la zone d'intervention du Liptako, cette région qui s'étend sur trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, justement, Gaël Alex.
C'est dans la nuit que deux Mirages français ont bombardé la forêt de Garamouko à quelques kilomètres du village de Kofel. Le survol d'un drone a permis de repérer des combattants qui se réunissaient. Il s'agit d'une opération ponctuelle, explique le colonel Patrick Stéger, porte-parole de l'état-major des armées. Le centre présente un certain nombre de menaces et Barkhane conserve la capacité d'agir parfois en dehors du Liptako, conclut-il. D'après le gouverneur de Mopti, Sidi Alassane Touré, les forces armées maliennes sont déployées dans la région pour quadriller les rives du fleuve Niger, de Mopti à Sendégué. Les soldats établissent aussi le bilan définitif de l'opération. Le communiqué de l'état-major français parle de plusieurs combattants mis hors d'état de nuire. Des sources locales affirment avoir vu des djihadistes acheminer leurs blessés sur des charrettes vers la localité de Kofel. La région de Dialoubé abrite plusieurs forêts où se cachent des combattants de la Katiba Massina. Malgré l'annonce fin novembre par l'armée française de la mort d'Amadou Koufa, chef de ce groupe djihadiste, ces combattants conservent une forte capacité de nuisance dans la région.
Notez aussi dans l'actualité africaine qu'au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui conteste, on le sait, la récente réélection de Paul Biya à la présidence, a été officiellement inculpé mercredi, deux semaines après son arrestation. Terminons pour cette semaine ce voyage africain à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Près de 30 000 Érythréens ont demandé l'asile à leurs voisins depuis la réouverture de la frontière en septembre dernier. La moitié d'entre eux vivent dans le camp de Itstats, dans le nord de l'Éthiopie. Reportage de Léa Lisa Vesterhoff.
Les boules roulent sur la table de billard, ambiance classique de café. Sauf qu'ici, ce sont les réfugiés qui ont trouvé la table posée à même la terre battue, sous un plafond de tôle ondulée et une chaleur étouffante. Nous sommes dans l'un des quatre camps où arrivent les Érythréens après avoir passé la frontière. Une traversée devenue presque banale, comme le raconte ce père de famille de 36 ans.
On est venu en disant qu'on allait visiter l'Éthiopie, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'ils sachent qu'on voulait en fait quitter le pays. Car si on dit qu'on ne revient pas, alors là, c'est dangereux. Mais bon, là, on a juste pris un bus, on est venu par la route et voilà.
Cet ex-soldat a fui il y a deux mois avec sa femme et ses quatre enfants. Depuis, le poste frontière de Zalambessa dans le Tigré a été fermé de nouveau par l'Érythrée. Mais malgré cela, Seyfadine Kassen, responsable de l'agence éthiopienne pour les réfugiés, confirme les arrivées quotidiennes se sont multipliées.
Donc depuis l'ouverture de la frontière, nous avons reçu plus de 9000 réfugiés ici. Et en ce moment, nous accueillons plus de 200 individus par jour.
Un exode qui depuis peu n'est plus composé uniquement d'hommes qui fuient le service militaire, mais à 90% de femmes et d'enfants. Le plus souvent, il s'agit de rejoindre un mari qui a déjà fui. C'est le cas de Foweini.
Je suis partie car en Éthiopie, on a le droit de quitter le pays de façon légale. Là-bas, c'est impossible.
L'Éthiopie et les maisons en tôle ondulée de ce camp ne sont souvent qu'une étape. Car comme Foweini, presque tous disent vouloir rejoindre un mari, une épouse ou un fils qui est déjà à l'étranger. Une procédure longue, mais qui peut aboutir à la réunification de la famille, ce qui était impossible en Érythrée.
suite et fin d'une semaine d'actualité. Nous reste quelques minutes, quelques petites minutes, Quentin Müller, pour parler de ces Tarjeman. Y a-t-il de bons et de mauvais élèves en matière de rapatriement de collaborateurs qui ont travaillé avec les 52 armées, puisqu'il y avait 52 pays?
Très rapidement, l'Allemagne, on peut considérer qu'elle est plutôt un bon élève. L'Allemagne en a rapatrié 760 sur un contingent d'auxiliaires afghans qui était à peu près équivalent au nôtre.
Et le plus mauvais élève, c'est pas... ne dites pas que c'est la France?
Si, pour moi c'est la France, parce qu'en termes de contingent, en rapatrier que 73 dès 2012 et avoir été forcé en fait par l'association en 2015 et avoir reçu cette pression en 2018 pour en rapatrier 160 de plus, on est clairement les mauvais élèves, oui.
Vous êtes donc toujours en contact avec certains de ces Tarjeman. Oui. Comment vont-ils? Y a-t-il des menaces vraiment très précises contre eux?
Oui, alors les menaces sont toujours constantes. C'est souvent un appel masqué. C'est souvent des cousins qui viennent vous dire « Ah oui, mais j'ai un ami qui sait que tu as travaillé pour les forces étrangères et il m'a dit que tout le monde le savait. » Donc, ou alors c'est quand on raccompagne son enfant à la sortie, enfin quand on l'accompagne à l'école, c'est un parent d'élève qui dit « Regarde, les deux là sont des traîtres. C'est un caillou qui brise une vitre en pleine nuit. » C'est constamment une pression constante. Et moi, je voudrais revenir sur le témoignage de Zoubeyer qui m'a écrit là il y a quelques jours. Donc Zoubeyer, il a été touché par un attentat le 14 janvier dernier. Il avait eu une convocation pour un visa pour la France. Il avait tout quitté. Il était parti avec sa femme et ses enfants pour cette convocation au Pakistan. Et il pensait vraiment venir en France. Et il a été refusé au dernier moment, après son entretien. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Et il est retourné en Afghanistan à Kaboul avec rien. Du coup, il cherchait du travail. Il était avec son beau-frère. Il a essuyé l'explosion d'un attentat suicide. Il a été gravement blessé. Son beau-frère est mort sur le coup. Et aujourd'hui, il est dans une situation où il est chez lui seul. Il est gravement blessé au bras. Il peut pas se soigner. Il a pas d'argent pour se soigner parce que il avait mis toutes ses économies pour rejoindre le Pakistan et donc cet entretien pour avec un potentiel visa français à la clé. Donc et aujourd'hui, il a un fils. Il me dit qu'il a un fils qui a été assassiné par les talibans. Il a deux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il a trop peur. Il est sans ressources. Sa belle famille lui en veut. Il est dans une situation économique catastrophique. Je ne sais pas comment il fait pour vivre aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait pour manger. Et il m'a dit récemment que ses enfants étaient malades parce que c'est l'hiver en Afghanistan, qu'il peut pas chauffer et que ses enfants, il peut pas soigner ses enfants. Mais il m'a dit, moi, je pense à me suicider et je peux pas le faire pour mes enfants. Donc, quand on reçoit des messages comme ça, on est marqué, pas en tant que journaliste, mais en tant qu'homme.
J'espère que l'association qui lutte en faveur de ces Tarjeman ou qu'une bonne âme, entre guillemets, de l'administration, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, aura conscience quand même de l'impact humain de cette question. Merci Quentin.
Merci à vous
Müller
pour l'exposition de cette cause.
Merci à vous d'avoir écrit ce livre, Tarjeman, enquête sur une trahison française, un livre publié chez Bayard.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous retrouvons demain pour le magazine Idées. Nous allons vous proposer une rencontre avec l'anthropologue Philippe Descola que nous sommes allés voir au Collège de France. Avec lui, nous parlerons des Indiens Achuar en Amazonie et aussi du parcours de celui que l'on présente comme le successeur de Claude Lévi-Strauss, avec lequel d'ailleurs il a travaillé, Philippe Descola, donc demain au Collège de France dans Idées, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.